Bonjour à tous et bienvenue à bord. À bord avec moi aujourd'hui, Anne-Véronique Herter, responsable du management des situations humaines sensibles et prévention des risques psychosociaux chez CriseUp. Tu es également auteur du livre Le cri du corps, édité aux éditions Michalon. Bonjour Anne-Véronique.
Bonjour Marie-Charlotte.
Aujourd'hui, nous verrons comment accompagner, écouter et soutenir une personne en souffrance. Est-ce que cela s'applique déjà à plusieurs interlocuteurs ?
Ça s'applique effectivement à plusieurs interlocuteurs. En vérité, ça s'applique aux salariés, aux RH, à la direction des ressources humaines, ça s'applique aux managers et ça s'applique à toutes les personnes qui travaillent en équipe et qui ont une personne à côté de soi. Et ça s'applique également à nous-mêmes si on a envie de se poser cette question-là pour savoir comment réagir par rapport à notre propre souffrance. Mais là, on va plus s'intéresser effectivement sur la souffrance de nos collaborateurs et peut-être aussi sur un accompagnement RH pour savoir ce qu'il faut faire et comment le faire.
Est-ce qu'il est important, quand on est en souffrance, d'avoir plusieurs portes ouvertes devant nous ?
Oui, c'est important parce que si on a par exemple une seule porte où on se dit « je ne peux aller voir que la direction des ressources humaines » mais qu'on n'a pas l'impression d'avoir une porte vraiment ouverte ou qu'on n'est pas en phase ou qu'on n'ose pas, à ce moment-là, on se retrouve coincé et la personne qui est en souffrance va rester avec sa souffrance. Si on propose plusieurs possibilités, là, ça ouvre les possibles et on sait, et d'ailleurs je le reprécise aujourd'hui ici, qu'une personne en souffrance qui a conscience d'être en souffrance peut aller voir sa direction des ressources humaines, son manager, la médecine du travail, un délégué du personnel, un membre du CSE ou de la CSSCT par exemple, ou même un collègue.
Comment chacun à notre niveau, témoin ou spectateur, pouvons-nous aider à agir ?
En tant que manager ou en tant que RH déjà, il faut avoir une posture d'écoute. Il faut que les salariés aient conscience qu'ils peuvent venir te voir. Me voir, voir le manager, le RH, etc., pour parler de cette souffrance. Et pour donner cette information, il faut vraiment être dans une posture d'écoute et d'absence de jugement. Il faut que la personne puisse se dire « je vais aller parler de mon problème », que ce soit un problème de souffrance due à mon cadre de travail, une souffrance en lien avec la relation que j'ai avec un collaborateur ou mon propre manager, ou une panique liée à la crise sanitaire, par exemple, puisque c'est ce qu'on vit aujourd'hui, où je peux avoir des inquiétudes et des peurs. Est-ce que je suis en confiance si je vais parler à cette personne ? Et donc, en tant que manager, est-ce que les collaborateurs sont en confiance et peuvent venir me parler tout en sachant qu'ils ne seront pas jugés ?
Peut-on parler alors de bonnes pratiques managériales et quelles sont-elles ?
Oui, on peut parler de bonnes pratiques managériales. En tout cas, dans ce cadre-là, elles sont liées à ce qu'on appelle l'écoute active. C'est un outil formidable, l'écoute active. C'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser au quotidien, qu'on peut même utiliser soi-même dans sa vie privée avec ses propres enfants, si on veut. Mais il ne faut pas que ça se voit trop parce qu'on se fait vite, avoir par nos ados. En tout cas, c'est quelque chose de vraiment important.
Ça sent le vécu, hein, Véronique.
Oui, la vie privée n'est jamais très loin de notre cadre de vie professionnelle et heureusement. L'écoute active, c'est juste déjà de se poser la question, de se dire « est-ce que je suis aujourd'hui disponible à l'instant T ? Est-ce que je suis détendu ? Est-ce que je suis réceptif ?» pour entendre ce que la personne veut me dire. On est sollicité à un moment donné, un collaborateur vient nous voir et nous dit « il faut que je te parle, j'ai vraiment un gros problème, je vais pas bien du tout » et là, on a l'impression qu'il faut le faire maintenant. Sauf que si moi, je suis débordée, stressée, en train de régler un autre problème qui me concerne ou dans une urgence, je vais mal l'écouter. Je vais l'écouter, lui dire de s'asseoir, mais je vais regarder l'heure tout le temps. Je vais regarder mes messages sur mon téléphone, je vais penser à autre chose ou je vais écrire mes mails et je ne serai pas du tout dans une disponibilité pour pouvoir l'écouter. Donc la première chose, c'est être disponible. Détendu, c'est dans la mesure du possible. On n'est pas tous zen, parfaitement en harmonie avec l'espace, l'univers. Quand on va travailler, des jours, on est un peu plus tendu. Mais en tout cas, il faut vraiment avoir une réflexion par rapport à son attitude par rapport à l'autre. Est-ce que je suis capable, en mesure de l'entendre ? La deuxième chose, c'est de porter un intérêt sincère à l'autre. Ça veut dire qu'on va enlever tout ce qui peut être jugement. On a toujours des préjugés ou des idées préconçues sur les gens qu'on rencontre, avec lesquels on travaille. On se fait tous une idée, qui est juste ou injuste, sur une personne, sur ses compétences, sur la façon de travailler. On a un avis sur tout le monde et c'est inconscient. Si par exemple un de vos collaborateurs vient vous voir, qui par ailleurs travaille très bien, mais vous savez que c'est quelqu'un qui est très bavard, qui va prendre énormément de temps pour vous expliquer sa problématique, qui va peut-être parler fort, qui va peut-être pleurer. Et vous vous dites, non mais ça va durer des heures, c'est pas possible, non, je peux pas la recevoir aujourd'hui, je l'ai reçue la semaine dernière. Tout ça, c'est compliqué parce qu'il faudra pas que ça se sente ni que ça se voit. Donc si vous le pensez, pensez-le un peu et surtout évacuez tout ça de votre esprit. Soyez vraiment dans un intérêt total vis-à-vis de cette personne. Pourquoi ? Parce que si vous gardez en tête, en la recevant, en ouvrant la porte, en lui proposant de s'asseoir, si vous gardez en tête que c'est quelqu'un qui parle fort, qui met pas de point dans ses phrases, qui va peut-être pleurer, etc., quand ça va arriver, vous allez lui montrer avec des expressions de votre visage ou des moments d'agacement que, voilà, c'est arrivé, elle parle fort, ça va prendre 3 heures, ça va se voir dans votre attitude. Du coup, elle va perdre confiance et là où elle voulait vous confier quelque chose d'important, elle ne sera plus en mesure de le faire. Ensuite, il faut questionner, poser des questions, s'intéresser à la problématique pour essayer de comprendre, au-delà des émotions qui sont en face de vous, qui sont présentées par cette personne qui vous parle, où, quand, comment, de quelle manière c'est arrivé, pour essayer de comprendre finalement tout ce qui est objectif et factuel. Et toujours en évitant d'être dans un sentiment de jugement ou de montrer son préjugé par rapport à la situation. Il faut prêter attention aux signaux verbaux, la façon dont elle parle. Si elle parle différemment, par exemple, elle parle comme je peux parler maintenant, d'habitude c'est comme ça qu'elle parle, et puis tout d'un coup elle va parler vraiment très très vite, elle comprend pas du tout pourquoi c'est arrivé, mais vous comprenez, et puis elle se met à parler plus fort, etc. Et là vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que son rythme s'accélère ? Pourquoi est-ce que c'est pas le même vocabulaire que d'habitude ? Sa respiration a changé ? Ça peut aussi vous donner des indices sur la souffrance qu'elle est en train de vivre, ou l'importance que ce qu'elle partage a pour elle. Les signes non-verbaux, ça peut être son attitude, si elle est recroquevillée, si elle a l'air fatiguée, si elle est ouverte à vous ou complètement refermée.
La PNL.
Oui, exactement.
Je recommande vraiment à tout le monde de lire des livres de PNL,
ouais, c'est magique
pour
aussi,
comprendre, ouais, et décoder le non-verbal, ouais, dans, ouais, votre relation à l'autre. Mmh, mmh. Quelqu'un qui a les bras fermés, qui a les genoux croisés. Mmh. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans l'ouverture.
Oui, oui, et ça peut s'expliquer. En fait, l'idée, c'est toujours la même chose. Hein. Faut pas juger, faut pas se dire, ah ben voilà, elle est refermée, elle veut pas me parler. Non, elle est là, elle veut vous parler. Sauf que le sujet qu'elle aborde est douloureux pour elle, donc elle se met en mode de protection. Donc tout ça, il faut l'avoir en tête. Hein. Il faut vraiment l'avoir. Il y a autre chose qui est difficile à faire, mais c'est qu'il faut respecter les silences. Quand on a quelqu'un qui parle beaucoup et puis qui tout d'un coup se tait, on a toujours envie de rajouter une petite phrase à ce moment-là, de combler le vide. Mais il faut pas toujours le faire, parce que quelquefois, les silences, ça permet, le moment où il y a des silences, permet de réfléchir à la situation pour la victime de cette souffrance, de faire un point de ce qu'elle a dit, peut-être de prendre un petit peu de courage pour annoncer quelque chose d'autre qu'elle a pas encore osé dire. Donc les silences sont précieux, et les émotions aussi. Il arrive que les personnes pleurent, il faut les laisser pleurer parce que ça libère quelque chose et ça exprime aussi quelque chose. Et
il faut dire que pleurer déjà et être en posture de souffrance au sein de son entreprise, souvent c'est très difficile à gérer émotionnellement.
Oui, mais déjà on fait pas exprès.
Le regard, ouais, de l'autre posé est hyper important à ce moment-là, donc il faut vraiment pas être dans le jugement, il faut accueillir ça, il faut respecter ça.
Ouais.
C'est difficile avant tout pour la personne qui craque.
Oui, mais c'est difficile pour elle, parce qu'on n'a pas envie de craquer, on a envie d'être fort. Puisque, en fait, on imagine toujours qu'une personne qui pleure est une personne faible, ou fragile, ou qui n'a pas les épaules. Oui, mais elle pleure tout le temps, mais elle n'a pas les épaules pour ce poste. Mais ça n'a rien à voir. Et on n'est pas dans l'histoire de chacun, on est tous différents. On a des éléments qui vont faire... qui vont modifier nos comportements, qui sont liés à notre âge, à notre culture, à notre histoire, à nos traumatismes passés. Il y a des choses qui sont essentielles et importantes pour nous qui ne le sont pas forcément pour les autres. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être très humble par rapport à ça, et plutôt accueillir les personnes qui craquent comme des personnes qui se livrent et qui lâchent la garde un petit peu, plus que de se dire que vraiment elles sont faibles. Puis vraiment, juste pour cette histoire-là, c'est quand même ridicule. Vraiment, ça, il faut éviter de le faire.
C'est un signal fort.
Exactement, c'est vraiment un signal important. Et puis, laisser la personne aller jusqu'au bout de ce qu'elle a à dire, parce que même si elle le prend une heure pour le faire, alors que vous avez compris au bout de 10 minutes, Eh bien, c'est qu'elle a besoin d'en reparler. Alors, attention, quand vous allez recevoir une personne, dans le cas où cette personne va spontanément venir vous voir, donnez un cadre au départ au niveau du temps. Dites, on a une heure, on a une demi-heure, on a une heure et demie. Mais parce que la personne va peut-être prendre plus de temps, il faut pas que vous vous mettiez en danger aussi par rapport à ça. Déjà, par rapport à vos autres urgences. Et puis aussi, ça peut vous toucher personnellement. Il faut pas que vous soyez chargé émotionnellement d'une façon trop négative. Donc, il faut savoir encore pouvoir arrêter, quitte à reprendre un peu plus tard si nécessaire.
En quoi l'empathie est importante ?
L'empathie est importante et elle est très différente de la compassion. On n'est pas là pour plaindre, on est là pour comprendre. Et l'empathie va permettre de voir en miroir la situation d'une personne en étant bienveillant et surtout ça va permettre l'objectivité. En étant empathique, on est en posture d'écoute et d'attention et on va essayer de comprendre la problématique qui se présente à nous. Et quand on est manager et que c'est un de nos collaborateurs qui vient nous voir, elle attend certainement une solution. Si on n'en a pas, il ne faut pas en donner des fausses ou il ne faut pas donner de faux espoirs. En revanche, l'écoute et l'accompagnement seront extrêmement utiles. Donc l'empathie, c'est vraiment de montrer à la personne qu'on l'entend. Et même si on ne comprend pas sa souffrance parce qu'elle ne nous est pas propre, on comprend que la situation puisse être compliquée pour cette personne. On a le droit d'être en désaccord aussi. On a le droit de dire, bon, ben voilà, tu trouves que ça, c'est pas normal. Dans le cadre du travail, c'est pourtant quelque chose qui est considéré comme normal. Ben, on peut donner son point de vue à partir du moment où il est objectif et factuel. Mais le fait d'être empathique évite d'ouvrir la porte sur un préjugé, sur un jugement de valeur, où finalement, on va humilier l'autre qui est déjà, la plupart du temps, fragilisé. Même si j'aime pas ce terme, c'est quand même là qu'on peut l'utiliser un petit peu en ouverture totale, en confiance vis-à-vis de son problème.
Ce qui est important également, ça va être de reformuler
oui.
les éléments factuels de cet entretien
mm-hmm.
et les besoins de l'autre.
Oui. Alors, reformuler, c'est un outil de l'écoute active qui est super quand il est bien utilisé. Ça peut être compliqué parce que la reformulation, ce n'est pas forcément redire mot à mot exactement ce que la personne vient de dire. L'idée, c'est de montrer à son interlocuteur qu'on l'a entendu et compris. Et ça lui permet d'entendre aussi ce qu'il a voulu exprimer pour voir si on est sur le bon chemin de communication. Donc si quelqu'un vient nous voir, par exemple si quelqu'un vient me voir et me dit faut que je te parle, vraiment ça va pas du tout, depuis 3 semaines j'ai beaucoup trop de travail avec l'absence de 2 personnes, là j'ai vraiment beaucoup beaucoup de travail et puis j'ai un enfant malade chez moi, je sais pas comment je vais m'en sortir pour le bilan de la semaine prochaine. Ce qu'on peut dire déjà, c'est donc là, ce que j'entends, c'est que ça fait 3 semaines que ça va pas parce qu'il y a ces 2 personnes-là qui sont en arrêt et en plus avec un problème personnel puisque ton enfant est malade, tu vas avoir une difficulté pour le dossier. C'est ça ton problème, c'est le dossier que tu vas pas pouvoir rendre. Et en fait, de le dire, même si on a l'impression que c'est une répétition, ça soulage la personne en face qui va dire oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, donc on a compris, donc on valide. En revanche, elle peut réagir en disant non, non, mais le fait que mon enfant est malade, c'est pas grave, son père va s'en occuper ou sa grande sœur. Bon, non, moi, mon problème, c'est qu'il y a 2 absents quand même depuis 3 semaines dans le service et que moi, je peux pas travailler dans ces conditions. Donc, le fait d'avoir reformulé permet de recentrer sur la vraie problématique de cette personne. Ou au contraire, de complètement réexpliquer si on n'a rien compris. Et quelquefois, ça arrive. Et c'est pour ça qu'on a aussi la clarification. La clarification, c'est parce que on est tous humains et qu'à un moment donné, il se peut, quand quelqu'un parle beaucoup et longtemps, que notre esprit nous échappe et qu'on se mette à penser à autre chose. Tout d'un coup, on revient et on croise le regard de la personne en face de nous qui attend une réponse. Donc, on a raté une phrase importante, manifestement. Il ne faut pas faire semblant d'avoir entendu et essayer de rebondir. Il faut dire, excuse-moi, j'ai pas entendu ta dernière réflexion. Je pense qu'elle est importante. Est-ce que tu peux me la repréciser, s'il te plaît ? Il faut le dire. Il faut le dire parce que on peut rater un élément important et puis on est tous aussi des humains et à un moment donné, c'est logique que l'esprit puisse vagabonder. Ça arrive.
Et donc, on peut parfois avoir des interprétations différentes. On peut s'exprimer de manière différente, faire passer des idées qui finalement ne vont pas être celles qui vont être reçues aussi. D'où l'importance de clarifier.
Exactement. Exactement. Parce que l'idée, c'est pas vous. Le jugement que vous avez ou que j'ai par rapport à la situation, c'est elle, ce qu'elle vit. L'important, je vais dire, c'est presque pas la vérité. C'est presque pas de se dire qu'elle a tort ou elle a raison de réagir comme elle réagit. La vérité, c'est qu'elle réagit comme ça. Elle est en souffrance, donc il y a un problème. Après, il faut comprendre quelle est l'origine de ce problème et comment on peut faire pour aider cette personne. Mais sa souffrance, c'est la seule vérité, c'est la seule réalité. Donc pour le reste, c'est pas notre propre interprétation qui doit jouer, mais c'est exactement ce que la personne veut dire. Donc c'est très très important, et toujours en évitant les jugements et les interprétations personnelles.
En parlant d'interprétation personnelle et de jugement, imaginons des situations que vous avez pu vivre chez ChrisUp, de managers qui n'ont pas entendu, qui ont laissé couler, et vous, vous récupérez derrière quelqu'un avec lequel on aurait pu prévenir bien en amont.
Mais bien sûr, bien sûr. C'est très souvent le cas parce que parfois, ça commence par des petits conflits, des petites choses qui vont pas, des petites violences du quotidien, j'ai envie de dire. Et les managers ont beaucoup de choses à faire, ils ont beaucoup de travail, ils ont aussi leur dossier, leur mission, leur management, et bien sûr, mais quand on a deux personnes, par exemple, s'il y a un conflit dans un service et qu'il y a deux personnes qui se disputent fréquemment et que la personne ne fait rien parce qu'elle va dire « Non, mais ça fait 5 fois cette année qu'il y a un conflit entre eux, moi je suis pas leur maîtresse d'école, c'est bon, ils vont se gérer, ils sont grands, j'ai autre chose à faire. » Le problème qu'on entend là, c'est que ça fait 5 fois, donc il y a eu 4 fois qui n'ont pas été gérées, et surtout si on ne fait rien, mais le service, il va prendre parti. C'est-à-dire que certaines personnes vont être d'accord avec l'un et avec l'autre, et on n'a plus un petit conflit entre deux personnes, mais on a un gros conflit dans toute une organisation. Et très souvent, les organisations ou les managers ne prennent pas le temps de régler ces problématiques qui pourraient l'être peut-être avec une clarification de poste, avec un meilleur dispatch des demandes ou des besoins, avec une clarification sur des horaires, etc. Enfin, une communication, toujours pareil, ça tout passe par la communication. Et s'il n'avait pas été dans ce déni-là, ça aurait été réglé tout de suite. Alors que là, on se retrouve dans une obligation de faire une enquête de climat, une analyse organisationnelle ou relationnelle, parce que finalement, tout part en vrille.
Comment gérer la contamination à l'équipe ?
La réactivité. C'est extrêmement important quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, de le prendre en compte immédiatement. Si quelqu'un vient vous voir, ou si vous êtes alerté par quelqu'un d'autre, qu'il y a une présomption de harcèlement, qu'il y a un comportement inapproprié, la première chose à faire, déjà, c'est de faire cesser ce comportement inapproprié. Donc, de faire en sorte que les deux personnes, s'il s'agit de deux personnes, soient séparées d'une façon ou d'une autre, ne travaillent pas au même endroit, etc. De les rencontrer, de rencontrer la présumée victime en lui disant « J'ai entendu, je suis au courant et je prends en compte ta problématique. » Ça ne veut pas dire « Je suis d'accord avec toi. » On ne sait pas. À ce stade-là, on ne peut pas dire s'il y a un vrai problème de harcèlement ou s'il n'y en a pas. En revanche, c'est une sorte d'accusé-réception. « J'ai entendu, je ne le mets pas de côté. Ça compte. » Quel que soit le résultat, ça compte, on va faire quelque chose. Et de rencontrer de la même façon le présumé auteur en lui disant « Voilà, il y a une alerte qui a été posée, il se passe ce problème, sache que on va tirer tout ça au clair, on va s'en soucier parce que ça compte et on va faire en sorte que tout aille bien. » Mais en tout cas, les informer, les séparer dans la mesure du possible pour que si on fait une enquête et durant le temps de l'enquête, il n'y ait pas de pression émotionnelle pour l'un comme pour l'autre et que aussi l'équipe ne soit pas touchée par cette atmosphère qui est forcément pesante.
Inciter à agir, oui. Avant tout.
Inciter à agir, ne pas être dans le déni. Et quand on n'est pas capable de faire les choses, ça arrive, c'est possible. On a plein d'acteurs de la prévention. On a, j'en ai parlé tout à l'heure, la médecine du travail, le CSE, la CSCT, les représentants du personnel, la direction des ressources humaines, les collègues qui sont aussi là pour nous entendre s'il y a un besoin, le médecin généraliste. Si on est en grande souffrance et qu'on n'arrive pas à en parler, on peut aller voir son médecin. C'est pas pour autant qu'il va nous prescrire des médicaments ou qu'il va nous faire un arrêt de travail, mais c'est le premier quand même qui est en capacité de vous connaître et de connaître tout ce que ça peut avoir sur votre santé comme implication.
Pourquoi être attentif aux changements au sein de nos organisations plus que tout quelque part ?
Le changement, c'est vraiment un facteur déclencheur d'émotions, quelque chose d'extrêmement fort. Et le changement, ça peut être 1000 choses. À titre individuel, ça va être un changement de poste, un changement même d'entreprise, une promotion ou une différence de taille dans une organisation où on a une équipe plus petite ou une équipe plus grande. Si notre organisme a fusionné avec une autre, donc là on va changer nos repères. Si on déménage aussi, ça change les repères. Tout ça, ça compte. Et les émotions sont liées au changement parce que dans tous les cas, le changement implique des réactions. On va avoir, que ce soit à court terme ou à long terme, des réactions de joie ou de peur, si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, de crainte. Est-ce que je vais être capable? Si on a une promotion, mais est-ce que je la mérite vraiment? Est-ce que je vais être capable? Ou alors, s'il s'agit d'une fusion, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va garder mon poste? Aussi un refus par rapport à ce changement. Oh, mais non, mais on change d'outil. Il paraît qu'il va être beaucoup plus performant pour faire la comptabilité.
La fameuse résistance au changement.
Et ça, et on fait non, mais moi, je veux pas. J'étais bien avant. C'était toujours mieux avant, etc. Et cette résistance-là, elle est très forte. Et si on ne fait rien pour gérer toutes ces émotions qui vont venir... Encore une fois, que ce soit sur quelques minutes ou sur plusieurs semaines, parce que ça dépend, les changements sont petits ou grands, si on ne les gère pas, s'il n'y a pas de communication, ça peut créer des conflits. Et la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui, c'est un changement énorme. Déjà, ça a une implication pour le métier et les entreprises de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Mais en plus, même si notre métier est préservé, même si on arrive quand même à atteindre une partie de ses objectifs, ce changement de fonctionnement, de relations sociales, humaines, de travail, de télétravail, d'organisation, un petit peu, on ne sait pas ce qui va se passer dans une semaine ou dans un mois, c'est
de
très...
De distanciation,
mais oui.
Le masque, on ne voit plus les sourires, les expressions, il y a aussi tout ce qui va avec.
Mais oui, bien sûr, et puis on ne se dit plus bonjour de la même façon, on ne va plus à la machine au café, on ne se raconte plus nos histoires. Et puis, il y a une suspicion. Il y a les gens qui vivent très, très bien cette crise parce que finalement, ça ne change pas grand-chose. Et d'autres qui l'ont vécu de façon traumatisante parce qu'ils ont eu des malades ou des morts près d'eux. Ou alors, même s'ils n'en ont pas eu, ils ont peur. Et ils ont le droit d'avoir peur. On a tous des réactions différentes. Mais après, il y a de la méfiance qui peut arriver aussi. Vous avez, par exemple, des personnes qui sont choquées parce que telle ou telle personne ne semble pas respecter complètement les gestes barrières, alors que dans le cadre du travail, ils sont obligés de les respecter. Donc, il peut y avoir de la méfiance, de la suspicion, etc. S'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas d'encadrement, s'il n'y a pas de rassurance des managers autour des salariés, on peut arriver à un conflit.
Peut-on dire que le changement fait émerger les comportements déviants? Parfois
oui.
En sourdine, alors, quelque part.
Sur certains changements, oui, tout à fait, dès que les gens sont en panique, dès qu'en fait il y a une peur, dès qu'on est sur la résistance et qu'on a peur de perdre quelque chose ou qu'on ne se fait pas confiance, effectivement. Et on le voit d'ailleurs dans la relation de certains managers avec leurs équipes quand il y a eu l'obligation du télétravail, où finalement certains ont été paniqués en se disant « Oh là là, mais moi mes équipes, normalement elles sont toutes autour de moi, donc je peux leur parler, voir comment ça avance. Là je sais pas, moi déjà j'ai du mal à me déconnecter, j'arrive très tôt le matin et puis en fait je suis jusqu'au bout du soir parce que j'ai envie de montrer que je suis là. » Mais est-ce qu'ils sont vraiment là? Et là, on va faire un petit peu de surveillance excessive. Et finalement, on va montrer tous les mauvais côtés du management, alors que peut-être qu'au départ, on était un bon manager.
C'est l'histoire du requin. Quand il arrive, mieux vaut ne pas paniquer et bouger.
Oui.
Mieux vaut rester statique.
Ça. Oui, oui. Et puis, c'est pas du tout facile. Hein. Enfin, moi, j'ai jamais vécu cette situation. J'espère ne jamais la vivre, mais je pense que je ne vais pas rester statique. Ou alors figée et sidérée. Et ça, c'est aussi une émotion qui peut arriver. C'est-à-dire que quand on reçoit une nouvelle, une information sur un gros changement, on peut se dire, elle a très très bien réagi. Mais ah bon, qu'est-ce qu'elle a dit? Rien du tout. Elle m'a regardée, puis elle m'a dit merci, au revoir, et puis elle est partie. Mais non, tout va bien. Non, pas du tout. Peut-être que en fait, c'est un état de sidération où elle a intégré l'information, mais elle ne l'a pas encore digérée. Et peut-être que c'est une bombe à retardement pour plus tard. Donc là, quand vous avez des réactions comme ça, n'hésitez pas à aller revoir les personnes pour en reparler avec elles, pour vous assurer que le changement a été compris.
Comment faire quand on sent qu'on a du mal à libérer la parole et que personne ne s'exprime, alors que l'on sait, via les bruits de couloir, via les collaborateurs, qu'il se passe quelque chose?
L'exemplarité. Première chose, l'exemplarité. On veut que les gens parlent, parlons. On veut qu'ils nous fassent confiance, faisons leur confiance. Est-ce que je suis vraiment exemplaire dans ma relation à mon équipe? Pourquoi ils ne me parlent pas? Je voudrais qu'ils me parlent. J'ai essayé d'être transparent et clair sur ce qui va se passer. Il n'y en a pas un qui vient me voir. Et pourtant, je sais que tout le monde parle et que ça fait des effets incroyables quand je ne suis pas là. Pourquoi? À ce moment-là, on se remet un peu en question. Pourquoi est-ce qu'on a peur de moi? Donc, il faut ouvrir le dialogue, recommuniquer, recommencer à exprimer les choses avec le plus de transparence possible, sans forcément tout dire, mais en tout cas, dire ce qu'on peut dire. Et ce qu'on ne peut pas dire, on peut tout simplement dire, vous me posez une question, par exemple, exemple, sur la stratégie sur un an, je ne peux pas vous en dire plus parce que je l'ignore. Ou je ne peux pas vous en dire plus parce que ça, ça fait partie de la direction générale et que je ne suis pas en mesure de vous en parler aujourd'hui. Ne pas prendre ses salariés pour des imbéciles ou des enfants. Ils ont aussi des capacités, et on le sait souvent, bien sûr, de comprendre et de savoir quelle est la responsabilité et la place de chacun. Et de dire à quelqu'un, ça je ne peux pas te le dire, c'est aussi le respecter. Et si on veut être respecté par ses équipes, il faut avant tout les respecter soi-même. Donc l'exemplarité. On recommence à communiquer, et si c'est nécessaire, et nous c'est ce qu'on fait assez régulièrement, c'est à ce moment-là des groupes d'expression, des groupes qu'on va quand on a des changements, des plans sociaux, des choses un petit peu lourdes, ou un changement dû au départ ou au décès d'un collaborateur, qui sont extrêmement violentes à vivre pour les équipes. On va réaliser des groupes de parole avec des psychologues, des personnes extérieures à l'entreprise pour essayer de les aider à libérer ce qui les ronge, ce qu'ils n'arrivent pas à dire pour pouvoir avancer ensuite. Bien sûr, ce sont des groupes après lesquels on ne va pas faire un rapport en disant telle personne a dit ceci, telle personne a dit cela. C'est vraiment intime et confidentiel, mais ça aide vraiment les personnes, les salariés en souffrance à avancer.
Tu dis souvent que nous sommes des individus dans un collectif.
Oui.
Pourquoi est-ce important de garder cette notion bien en tête et de ne jamais l'oublier ?
Alors déjà parce que dans le cadre des risques psychosociaux, on travaille vraiment sur le collectif. On ne peut pas travailler sur l'individu, on ne peut pas travailler sur des cas uniques. Et on est tous uniques. Or, à force de travailler uniquement sur le collectif, on en oublie notre humanité. Donc c'est très important que les lois et le cadre soient respectés par tous, donc qu'ils soient appliqués de manière collective par tout le monde sans discernement, d'accord, mais qu'en revanche on ait en tête que nous sommes une somme d'individus et que il faut prendre soin de chacun et que chaque personne est essentielle pour l'avancée du groupe, avec les différences de chacun, avec les compétences de chacun, avec les histoires de chacun, et c'est cette force individuelle qui fera un bon collectif. Donc il faut le prendre en tête, il faut le garder en tête, pardon. Ce qui est important, c'est que par exemple si une personne a un comportement très sexiste, va être très blague graveleuse avec toutes les filles de son équipe, et les filles de l'équipe adorent, ils le trouvent formidable, il a tellement de charme, il est merveilleux, il est drôle, heureusement avec lui on peut tout dire. Il y a quelqu'un qui arrive dans cette équipe, une nouvelle femme, et elle le vit très mal. Elle le vit très très mal, elle est gênée par ça, elle se sent attaquée par ça, alors qu'on ne lui parle même pas particulièrement, mais du coup elle se sent isolée parce qu'elle ne comprend pas pourquoi ça fonctionne comme ça. Celui qui a tort, c'est pas elle de pas s'intégrer dans le groupe parce que tout le monde fait des blagues graveleuses et que ça convient à tout le monde. Celui qui a tort, c'est celui qui fait ça. Et en fait, c'est très important de se dire que le cadre de la loi dit on respecte chacun. Si ça dérange une personne, faut pas le faire. Même s'il y en a 95 derrière qui trouvent ça formidable. Donc c'est pour ça que le collectif prime là-dessus, dans le sens où le collectif, c'est la loi et la loi touche tout le monde.
On a le harceleur moral, mais justement, que se passe-t-il dans le cadre d'un collectif harceleur ?
Bah là, c'est du harcèlement organisationnel ou managérial. En fait, on va se rendre compte que plusieurs personnes fonctionnent de la même façon au niveau de la direction, mais on va s'en rendre compte parce qu'il y aura beaucoup de turnover, beaucoup de personnes en souffrance, beaucoup d'arrêts maladie, beaucoup de choses qui n'iront pas, certainement beaucoup de conflits et beaucoup de déni par rapport à tout ça. Donc, ça se verra dans les résultats, dans les indicateurs RH. Et là, bien sûr, on a un problème parce que ça va augmenter la souffrance individuelle des salariés, donc c'est absolument inacceptable. Et de la même façon, on va peut-être pas rentrer sur une enquête de présomption de harcèlement parce que personne ne le dira comme ça, mais on va peut-être rentrer sur une analyse organisationnelle, relationnelle, une sorte d'expression autour d'une question posée. Et en fait, on va se rendre compte petit à petit que la problématique, c'est le fonctionnement, c'est le cadre, c'est le droit à la connexion, à la déconnexion, c'est le respect de chacun, etc., etc. Donc en fait, on peut de toute façon agir et c'est pas du tout quelque chose de faisable ou validable. On ne peut pas accepter un harcèlement, qu'il soit individuel ou organisationnel.
Pour les personnes qui sont dans le cadre d'un recrutement actuellement, quelques petits indices qui nous mettraient la puce à l'oreille. Tu nous parlais de turnover, c'est pour ça que j'y pense. Oui. Toujours poser des questions aussi quand vous arrivez dans un nouveau poste, quand vous êtes sur un process de recrutement, parce que c'est à ce moment-là que c'est difficile d'avoir tous les codes.
Oui. Alors, quand on est un salarié
et
qu'on
arrive...
Et des
deux côtés, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Donc, par rapport à, déjà, le salarié qui essaye de rentrer dans une entreprise, mais déjà, on le voit aussi beaucoup par rapport aux questions qui sont posées, par rapport aux horaires auxquels on est reçu, et puis par rapport à l'atmosphère qui peut régner. En général, quand on s'intéresse à une entreprise... Souvent, en tout cas, on peut trouver qu'une marque est jolie ou qu'on aimerait bien travailler à tel endroit ou alors on a rencontré quelqu'un. Essayez d'en savoir plus par rapport à des personnes qui y ont travaillé ou qui y travaillent toujours. En tout cas, faire confiance aussi à son instinct par rapport à tout ça et ne pas se dire que tiens, mais tous les rendez-vous, là, elle me reçoit à 19h30 et c'est bizarre, tous les bureaux sont remplis. J'ai l'impression que tout le monde est là alors qu'il est quand même très tard et que c'est une entreprise où on me dit qu'on commence à travailler à 8h30 le matin. Donc, on peut se dire que là, la pression, elle est peut-être un petit peu importante. Voir le visage des gens aussi, s'ils ont l'air bien ou s'ils ont l'air fatigués ou stressés. Donc après, ça peut être des préjugés justement, mais en tout cas de se fier un petit peu à cette impression et la façon dont on vous a parlé ou on vous a accueilli, la façon dont on vous a posé des questions peut-être trop personnelles ou pas assez dans le sens où est-ce qu'on s'est intéressé à moi ou que à mon diplôme. Voilà, enfin, en fait, ça va aussi dépendre de chacun, mais... Comment est-ce que j'ai ressenti tout ça? Ça sera intéressant. Et puis de voir si on remplace quelqu'un qui est en arrêt maladie longue durée. Et ça peut être pour des choses complètement justifiées ou c'est pas du tout en lien avec des risques psychosociaux. Mais en tout cas, se poser ces questions-là. Où est-ce que j'arrive? Est-ce que c'est un endroit où les gens sont là depuis longtemps ou pas? Pourquoi? Voilà. Et en tant que DRH ou RRH, déjà, attention, arrêtons de culpabiliser si on fait un mauvais recrutement. Ça arrive, je pense que ça arrive toujours à un moment donné. On n'est pas infaillible et on pourra se poser des questions aussi sur la façon dont la personne se présente. Peut-être aussi voir par rapport à son CV si elle a changé d'entreprise tous les ans ou tous les ans et demi ou elle a changé tous les 6 mois. Tout ça, ça compte.
Justement, ce côté poker face en entretien, ça a donné lieu aussi à de nouvelles pratiques de recrutement sur le recrutement en longueur.
Oui.
5, 7, 10 entretiens.
C'est épuisant ça. C'est épuisant. Mais
quel regard porter sur des recrutements qui sont de plus en plus méticuleux, quelque part, mais qui, à la fois, sont un peu sur une pente dangereuse en termes d'exigence vis-à-vis du candidat?
Oui, et puis en plus, on coupe quand même la confiance et la spontanéité, parce que ça veut dire qu'il faut passer 7 fois devant un grand jury pour mériter un travail. Après, peut-être que c'est différent pour certains, ou dans certaines entreprises, organisations. Moi, ce qui me fait un petit peu peur par rapport à ça, c'est qu'on a l'impression, comme en médecine, comme dans plein de secteurs, où finalement on se préserve, on se protège un maximum pour éviter les problèmes, les procès, etc., etc. Et que finalement, on a oublié un petit peu la spontanéité du contact qui passe. Et il y a beaucoup d'embauches qui se passent comme ça encore, où finalement, le feeling, il passe. Peut-être que les diplômes, ils ne sont pas parfaits, mais on a les mêmes sens, le même sens du travail, la même éthique, les mêmes valeurs, et on veut aller au même endroit. Bon, voilà, c'est déjà bien.
Tu nous parlais d'image de marque. Forcément, je suis obligée de rebondir. Quid de l'adéquation entre les valeurs affichées à l'extérieur et les valeurs réelles, parfois, dans des cas que vous auriez pu traiter?
Oui, alors ça peut être très compliqué, effectivement, parce que il y a notre propre éthique, ce qu'on peut nous demander de faire ce qu'on ne voudra jamais faire. Ça peut être le cas si on prend, par exemple, un travail dans une agence de publicité ou de marketing ou de communication. On change de client très souvent, où on peut refuser de travailler pour telle ou telle marque parce que ça rentre pas dans les propres. Par exemple, un vendeur de cigarettes, on peut ne pas avoir envie de vendre ça. Mais au-delà de l'éthique, il y a aussi la capacité qu'on a à pouvoir gérer tel ou tel sujet parce que ça nous touche personnellement. Donc, il y a aussi notre propre histoire. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une opposition entre les valeurs qui sont présentées de bienveillance, d'attention faite aux salariés et finalement une réalité qui est complètement autre. Et là, ça peut être un vrai sujet de risque psychosocial parce que là, on est vraiment étranglé dans une réalité où finalement notre sens éthique est beaucoup plus fort qu'on ne peut l'imaginer et va nous empêcher de bien travailler ou on va amorcer une culpabilité de faire ce travail-là à cet endroit-là et donc peut-être pousser à des fautes.
Est-ce que réellement, c'est les corbeilles de fruits gratuites, la table de ping-pong ou le baby-foot qui... Non, mais réellement, qui change quelque chose? C'est vrai qu'on a de plus en plus de marques qui mettent ce genre d'avantages en avant, qui pensent que ça participe au bien-être. Ton regard un peu sur la question?
Bon, alors pour moi, c'est une question, je suis obligée d'y répondre d'une façon très personnelle parce que c'est quelque chose que j'aborde assez souvent. Dans ma propre histoire, quand j'ai été en état, en situation de burn-out pendant 2 ans, dans le cadre de mon livre, j'avais répondu à des interviews et l'une des journalistes qui m'avait rencontrée est allée à mon ancien travail pour savoir ce qui s'était passé avec moi, pourquoi j'en étais arrivée là. Et le directeur marketing avec qui j'avais jamais travaillé d'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est lui qui a répondu, lui a dit, mais enfin, c'est n'importe quoi, ça a toujours été formidable, on a toujours été très bienveillants. Et pour exemple, toutes les semaines, on a une corbeille de fruits dans la cuisine pour les salariés. Et je trouve ça génial, parce que moi qui ai voulu mourir à mon travail, et moi qui ai ouvert une fenêtre pour sauter, quand cette journaliste m'a dit ça, je me suis dit, mais je suis qu'une idiote. Au moment où je voulais sauter par la fenêtre, il aurait fallu que je me dise, mais non, saute pas, va chercher une pomme plutôt. Voilà, c'est toute l'ironie de la chose. C'est-à-dire que c'est très bien de donner des fruits, on était ravis. Mais bien sûr, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'où on évite des risques psychosociaux avec une corbeille de fruits ou une table de ping-pong? J'adore le ping-pong, j'adore les fruits. J'ai aucun problème là-dessus et je dis pas qu'il faut arrêter de faire ça. C'est super, et c'est super les massages, et c'est super tout ça. Mais ça n'empêche pas un burn-out, un harcèlement, un risque psychosocial. Si le gâteau, il est pourri, je ne mangerai pas la cerise qui est dessus. C'est tout. Et c'est une cerise.
Je me souviens d'une vieille histoire dans une organisation où on intervenait dans une autre vie où on nous disait « Alors voilà, on a un petit problème. Alors on a mis le baby-foot, on a mis le billard, on a mis le café, on a mis les pauvres fat boys, on a tout mis. » Et personne n'y vient. Mais oui, nous étions à l'étage de la direction et on était en plexiglas transparent. Est-ce que les employés vont venir passer 15 minutes sous peur d'être perçus comme des feignants? C'était génial, clairement.
C'est génial, mais ça part d'une bonne intention. C'est très sympa de mettre tout ça, mais effectivement, comment ils n'ont pas réalisé que devant la fenêtre de la direction, personne viendrait ou que les salariés n'auraient pas cette idée de se dire « Oui, bah, ils ont fait ça, en fait, c'est juste pour vérifier notre temps de pause, combien de temps on prend et qui vient le plus souvent et qui est le plus flémard. » Marre de la bande. Donc, tout ça, je suis surtout pas contre. Je dis pas que c'est mal. Il faut le faire, c'est très bien de le faire. Mais on ne parle pas de risques psychosociaux, là. Quand on parle de ça, on parle d'autre chose, d'animation sympathique.
C'est un papier cadeau.
Oui, non, mais c'est ça peut être emballage. Autre chose. Mais ça peut être un bonbon, c'est super. Mais on parle pas de travail, là.
On ne parle pas de travail. Non. Alors, justement, avant de se quitter, quelles sont réellement les pratiques à bannir?
Alors, les pratiques à bannir, c'est déjà de ne pas être exemplaire, de ne pas faire exactement comme ce qu'on demande à ses salariés. C'est de ne pas s'arrêter dans le temps, de demander une connexion très tôt le matin, très tard le soir, de demander un travail qui est ingérable en trop peu de temps ou des dossiers urgents continuellement. Et évidemment, de mal parler ou d'insulter ou de couper la parole ou d'être violent ou agressif, évidemment. Et de surveiller continuellement, faire des sanctions qui sont complètement ridicules compte tenu de la faible gravité de l'élément qu'on peut reprocher à un salarié. Il y a énormément d'éléments qui peuvent être mis en avant. Ce qui est vraiment important d'avoir en tête, c'est que à partir du moment où nous-mêmes, on n'accepterait pas d'être traité de cette façon, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, c'est ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est tout ce qui peut apporter un problème de communication, une difficulté relationnelle, un stress et quelque chose que nous on vivrait mal, il ne faut pas le faire.
Merci Anne-Véronique d'avoir été avec nous à bord aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été avec nous, d'avoir été à l'écoute. Si vous avez des questions, des réactions ou juste envie d'écouter et de partager ce podcast, alors n'hésitez pas. Et surtout n'oubliez pas d'être attentifs les uns envers les autres.
À bientôt.